Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Alors je vais vous le dire franchement, au début je voulais pas le faire, moi, ce sujet. Et t'as vu, la première ministre c'est une femme, et ben la belle affaire, on va donc aligner les arguments tarte à la crème, une femme bien sûr c'est bien, mais enfin ce sont les idées qui comptent, etc. Et tout ça est vrai. Aujourd'hui je voulais pas le faire ce sujet, justement parce que je pense que les petites filles sont sûres et qu'elles savent qu'elles peuvent être première ministre ou présidente si elles le souhaitent, elles peuvent d'ailleurs être tout ce qu'elles veulent, mais est-ce que les politiques, eux, le savent? Est-ce que c'est la société, dans un vieux pays comme le nôtre, qui a mis du temps à accepter une femme à ce poste, ou est-ce que ce sont les hommes politiques qui rechignent à laisser leur place? Alors, on l'a tous compté, hein, la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie, l'Islande, la Géorgie, la Serbie, la Moldavie, l'Écosse, le Kosovo, la Hongrie, la Grèce, la Slovaquie et la Commission européenne. Eh ben dites-moi, impressionnant. Sauf que quand même, dans cette liste, il y a trois présidentes honorifiques. Eh oui, les premières ministres, bravo, les pays nordiques, ça existe. Oui, nous sommes très en retard, reconnaissant aussi que le phénomène en réalité, y compris dans ces pays, est un phénomène très récent, après les exceptions évidemment d'Angela Merkel, de Theresa May, de Margaret Thatcher ou bien sûr d'Edith Cresson. Bref, oui, ça compte et oui, on en parle parce que oui, c'est rare. Hélas, ça n'est pas en France un non-sujet. Souvenez-vous quand même que le MeToo politique, il date de novembre dernier, c'est-à-dire hier. Et puis tiens, il y a ce collectif génial qui s'appelle Sista et qui regroupe des femmes chefs d'entreprise et qui fit circuler en ce moment une vidéo en disant « Et si on posait les mêmes questions aux hommes et aux femmes ?» Et là, ça nous parle à nous, les journalistes. À Édouard Philippe ou à Jean Castex, on n'a jamais demandé comment ils avaient concilié au cours de leur carrière leur vie de famille ou leur vie professionnelle, encore moins quelle était leur morning routine avant d'aller à Matignon. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça change. Avec Elisabeth Borne, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Carla, la première, c'est vous. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre émission et merci beaucoup de prendre ma question. Moi, je voulais juste dire que j'avais été un peu surprise du fait qu'on présente justement cette nomination comme une grande avancée en termes de droits des femmes, en termes de féministes, parce que pour moi, il suffit pas d'être une femme, pardon, pour être féministe. Et c'est quand même une première ministre qui va travailler avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui n'a pas spécialement brillé en la matière durant son dernier quinquennat. Du coup, voilà, je voulais dire que, bah, comme vous le disiez en introduction, souligner à quel point c'est une grande avancée, je ne sais pas si c'est très pertinent.
Eh bien, on verra ça ensemble, Carla. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Camille Froidevaux-Météry est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, féministe, professeur de sciences politiques à l'Université de Reims. Vous avez notamment écrit « Un corps à soi » aux éditions Du Seuil. Et puis Cécile Duflo est là également. Bonsoir, Madame Duflo.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement de 2012 jusqu'à 2014. Alors est-ce qu'on dit comme Carla, je vais vous poser la question à toutes les deux, non, il faut pas en parler parce que effectivement derrière on parle immédiatement politique et le sujet du coup s'éteint, ou est-ce que quand même on est obligé de le souligner dans le pays dans lequel nous sommes? Camille Froidevaux-Météry d'abord.
Oui, moi je trouve qu'il faut le souligner parce que ça permet une chose importante, ça permet de rappeler que derrière tout cela, derrière disons le symbole très fort dont il faut sans doute se réjouir, il y a une réalité qui est celle de la surmasculinisation du pouvoir. Ça permet de rappeler par exemple que le cabinet du président de la République est composé de 13 personnes dont une seule femme. Et ça permet surtout d'exercer une forme de pression sur Elisabeth Borne, parce que l'étape importante en réalité c'est pas tellement sa nomination. Celle-ci était attendue, elle était quasiment obligée. Je crois que Macron ne pouvait pas faire autrement que de désigner une femme, il l'avait annoncé. En revanche, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire la composition du gouvernement à venir, est décisive parce que là, comme souvent en matière d'égalité, le diable se cache dans les détails et qu'on aimerait bien voir davantage de femmes ministres de plein exercice, davantage de femmes ministres de ministères régaliens et puis aussi davantage de femmes à l'Assemblée nationale.
Là-dessus, Cécile Duflo, est-ce qu'on en parle ou est-ce que, comme Carla, on dit non mais oui, très bien, et puis passons à autre chose parce que ce qui compte effectivement c'est la politique et que là-dessus la donne forcément est différente?
Alors en fait, en vous écoutant dire que ça vous gonflait en gros d'avoir été obligé de faire un téléphone sonne là-dessus, moi ça m'a rappelé la nomination d'Edith Cresson, j'avais 16 ans, et c'était peu ou prou à ce moment-là qu'il y a eu commencé à avoir des débats sur la parité, et moi j'étais une jeune fille de 16 ans très très opposée à la parité. Je trouvais que c'était anormal, je voulais pas avoir des responsabilités sous prétexte que j'étais une femme, etc. Et en même temps, j'ai cru, comme tout le monde, que bah, si Edith Cresson, ça s'était mal passé, c'est qu'elle était mauvaise. Mmh. Et revisitant ça avec des années de recul, je vois bien tout ce qui a été à l'œuvre. Il faut relire ce qu'écrivaient les journalistes politiques à l'époque. Hein. C'était terrible. Donc, je ne crois pas que ce soit un non-événement, parce que le fait qu'il y ait ce plafond de verre, et vous l'avez très bien dit avant moi, qu'il y ait aussi peu de postes occupés par des femmes, ce n'est pas anecdotique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette contrainte qui pesait sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, là, le casting, il était forcément féminin. Et d'ailleurs, on a bien vu que si on cherche des femmes pour être candidate première ministre, on en trouve, puisqu'il y en avait plusieurs qui étaient en lice. Et ça, c'est très nouveau parce qu'en fait, c'est la pression de la société. C'est-à-dire que là, il n'avait pas le choix de nommer une femme. Ça aurait été un tollé gigantesque s'il avait encore nommé un homme. Et ça, c'est quand même une grande avancée. Pour moi, c'est la principale avancée. Ensuite, tout le reste est vrai. Il faudra effectivement juger sa politique, juger sa façon d'exercer le pouvoir. Être une femme, ça n'a rien de différent d'un homme dans la façon d'exercer le pouvoir. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas de femme, est un signal politique, et c'était le cas dans les cinq années qui viennent de s'écouler.
Et vous voyez, c'est marrant parce que Héloïse sur franceinter.fr semble avoir presque anticipé sur ce que vous dites, parce qu'elle dit, en effet, le genre ne devrait pas être un sujet, mais ne pensez-vous pas qu'Emmanuel Macron, en 2022, ne pouvait pas ne pas nommer une femme, c'est ce que vous dites, Cécile Duflot, et si personne ne le dit réellement ouvertement, donc là, en l'occurrence, sauf vous, est-ce que ça ne lui attache pas d'emblée un poids au pied à Elisabeth Borne? Qu'est-ce que vous en dites, Camille Froide-Vométhéry? Puisque de toute façon, il était obligé. Alors, bien sûr, il y en avait d'autres, hein, mais puisqu'il était obligé, est-ce que ça n'attache pas, est-ce que ça ne colle pas au front d'Elisabeth Borne, ça?
Oui, ça renvoie à un phénomène que pas mal de femmes politiques ont pu dénoncer, c'est-à-dire, enfin, disons, plutôt d'opposants, c'est-à-dire les femmes qui sont nommées comme de sortes de femmes prétextes, qui ne sont que des symboles et qui sont destinées peut-être à ne faire que passer, s'allumer un poids sur les épaules. Moi, je m'inquiète davantage de son sort après les élections législatives. On parle souvent de plafond de verre, on parle parfois aussi souvent de falaise de verre, c'est-à-dire ces femmes qui montent très haut et puis...
Dire qu'on monte, on tombe de plus haut, vous voulez dire?
Voilà, il y a un peu de ça, enfin c'est ce qui s'est passé avec Edith Cresson. Est-ce que, moi c'est aussi quelque chose que j'attends d'observer avec intérêt, est-ce que Emmanuel Macron tiendra sa résolution? Est-ce qu'il ira au-delà des élections législatives? Et une fois encore, est-ce qu'il ira aussi un petit peu au-delà simplement de cette nomination, disons... presque de façade, même si elle a du sens, évidemment, en promouvant des femmes ailleurs et partout.
Et alors, en même temps, Cécile Duflot, je vous entends toutes les deux, et moi aussi, je me souviens de la nomination d'Edith Cresson, je me souviens comment elle est sortie, enfin, plus que rincée, on l'a revue il n'y a pas très longtemps, Edith Cresson, puisqu'à l'occasion, effectivement, de cette nomination, il y a des interviews qui ressortent, notamment sur les remarques continuelles qu'on faisait sur sa manière de s'habiller, si bien qu'elle avait fini par adopter un style extrêmement neutre, sur les bijoux qu'elle portait, si bien qu'elle arrêtait d'en porter. Moi, je me dis quand même, Cécile Duflot, vous m'arrêterez si je me trompe, vous avez longtemps eu une carrière politique. Est-ce que tout ce poids qui a 30 ans d'âge, est-ce qu'on s'en est pas quand même débarrassé?
Alors, je pense que déjà, parce que quand même, ce qui était dit d'Edith Cresson, c'était que c'était la maîtresse ou que ça avait été la maîtresse aussi de François Hollande. C'était ça.
De François Mitterrand.
De François Hollande, de François Mitterrand.
La pompe à
et c'était atroce. Parce que, en fait, ce genre d'attaque-là, vous pouvez rien en faire. Si vous démentez, vous alimentez. Si vous ne dites rien, on dit, bah, vous voyez qu'elle répond rien. Donc, elle était quand même cernée par un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, ne pourraient plus avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de protection quand même qui s'est organisée. Sur la tenue vestimentaire, c'est beaucoup plus difficile de faire des remarques. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, Emmanuel Macron a nommé sa première ministre. C'est sa compétence. Mais c'est aussi la société, d'une certaine manière, qu'il a nommé. C'est-à-dire qu'en réduisant le périmètre dans lequel il pouvait choisir à des femmes, avec une sorte de pression sociétale, collective assez forte, eh ben, il a le corps collectif de notre société a marqué quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je pense pas qu'elle sera ramenée au fait de il a dû choisir une femme. C'est parce que tout le monde savait que de toute façon, c'était pas possible autrement. Alors peut-être qu'un jour, il y aura ce qui existe dans certaines organisations, une alternance. Une fois que vous avez une première ministre, bah, vous nommez un homme. Et puis si c'est un homme, le suivant, bah, c'est une suivante. Bah, il y aura cette alternance-là dans le temps. Pourquoi pas l'imaginer? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup dépendre d'elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle sait aussi qu'elle est première ministre dans un moment où c'est pas un homme qui a fait un coup, parce que c'était ça avec Mitterrand, il avait fait un coup en nommant une femme, qu'il appelait d'ailleurs premier ministre, hein, mmh. il faut s'en souvenir. Mmh. Là, elle sait le poids du combat féministe, le poids de quoi elle est à la fois l'héritière, le résultat, mais aussi qui va être très scruté. Donc, c'est comme toujours dans ces histoires-là, chacun tient un bout de l'histoire, il y a la société qui tient un bout de l'histoire, mais il y a elle aussi, et c'est ça qui va être intéressant.
Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elle permet de marquer une année zéro ou pas? Camille Fradevaux-Métairy disait tout à l'heure, faudra écouter ce que dit son gouvernement, faudra voir ce qu'il y a à l'intérieur de son gouvernement. Quand on arrive sur cette marche-là, qu'on est effectivement la première, est-ce qu'on se dit que toutes les remarques, y compris les remarques machistes d'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir, qui continuent à fuser à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on se dit qu'au moins, à ce poste-là, on remet les compteurs à zéro, c'est l'année zéro, et on commence sur autre chose dans les femmes en politique, ou est-ce que je rêve un peu?
Alors, je pense pas du tout que les compteurs sont remis à zéro. Et puis par ailleurs, si on fait l'analyse politique, c'est une femme, mais c'est complètement dans la continuité des choix politiques du président. C'est une technocrate, c'est pas une femme qui a fait oui. une carrière politique oui. et qui a une personnalité indépendante de.
Mais en termes de relations entre les femmes et le politique, en fait, est-ce qu'on se dit qu'à ce poste-là, on se dit qu'on peut se dire, bah, ce sera l'année zéro. En fait, au moins, il y a des compteurs qui sont remis à zéro parce que là, c'est la première ministre.
D'abord, je pense que quand il y a plein d'hommes qui sont habitués à obéir à une femme, ça change. Et donc là, de fait, et si elle connaît bien les arcanes et la première ministre a un rôle extrêmement stratégique parce que c'est elle qui fait les arbitrages, si elle prend pleinement ses responsabilités, elle se fera respecter par, j'allais dire, la légitimité que lui donne le cadre de l'organisation du fonctionnement gouvernemental, et ça habituera plein de mecs à avoir une femme chef. Et déjà, ça, c'est un bon début. Donc, je ne sais pas si c'est une année zéro, mais c'est quand même un changement. Et ensuite, c'est sûr que dans la représentation collective, d'abord juste le fait de dire première ministre. Mmh. Voilà, on n'a pas l'habitude de le dire première ministre parce qu'on l'a quasiment jamais dit, et que si on a 35 ans aujourd'hui, on n'a pas connu une femme chef de gouvernement. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu président de la République, mais il n'y a même jamais eu de présidente de l'Assemblée nationale en France. Hein. En France, c'est quand même, enfin, c'est encore un sujet, même si ça vous gonfle et que vous êtes obligé d'en faire une émission. En fait, c'est encore un sujet.
En fait, c'est ça le problème, c'est que ce soit effectivement encore un sujet, que ce soit encore un sujet en 2022, mais effectivement, il faut bien se résoudre à le penser. Effectivement, c'est encore un sujet. C'est intéressant, premier ou première ministre Camille Fradevaux-Métairy, parce que j'ai pas pu m'empêcher de regarder sur les fils Twitter aujourd'hui ceux qui disent premier, ceux qui disent première. La félicitation de Valérie Pécresse, qui félicite effectivement Elisabeth Borne, dit félicitations. Vous êtes la deuxième Premier ministre. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais.
Oui, c'est un peu affligeant, mais en même temps, voilà, ça montre que les mots ont du sens. La féminisation des fonctions, c'est quelque chose de crucial, parce que ça nomme tout simplement un phénomène qui, s'il est rare, commence d'exister. Donc c'est important. On a ce problème peut-être aussi avec les maires. Mmh. Est-ce qu'on dit mairesse ou maire quand on sait qu'elles ne sont que 20% de femmes à être à ces fonctions? Je crois que ça a du sens d'insister sur la féminisation. Mais c'est quelque chose qui, voilà, on est écartelé ou comme un peu figé par cette difficulté de penser cette fonction de pouvoir dans des termes, on va dire, féminins. Comment s'extirper de la façon dont on enferme les femmes politiques dans leur apparence, par exemple. Edith Cresson se plaignait beaucoup de la façon dont les journalistes photographiaient ses jambes à la recherche.
Ouais, voilà. Parce qu'il avait une cicatrice sur le genou, mais sérieusement, enfin, voilà. On rêvait. Mais enfin bon, c'est vrai que ça existait. Ouais.
Et c'est intéressant, enfin, il va falloir je pense qu'elle doit se saisir de ce sujet, même si je crois quand même que c'est un type de femme politique, parce que toutes les femmes politiques ne sont pas tout à fait les mêmes, un type de femme politique que moi j'appelle les managers, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont dans une logique d'efficacité, de travail. D'ailleurs, on parle beaucoup de ça, hein, sa grande capacité à travailler.
Je reçois un message à l'instant qui dit « Chère Fabienne, vous rêvez ». Bon ben, ok, c'est formidable que les femmes avancent, mais franchement, vous rêvez un peu. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'avais un petit truc, et puis en fait, Cécile Duflot vient de très bien résumer ce que je voulais dire.
C'est pas grave, redites-le.
Le postulat, c'était de dire qu'on ne doit pas forcément parler. J'ai beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux aussi aujourd'hui. On nous dit en parallèle que dans plein d'autres pays européens, on n'a pas attendu, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il y a des femmes premières ministres. Et pourtant, si on regarde dans le détail de ces femmes premières ministres, on se rend compte que c'est une proportion vraiment très minoritaire par rapport aux hommes. Mmh. Toujours, hein, même dans ces pays, même en Finlande par exemple, ouais. Où on a un exemple qui parle à beaucoup de monde. Je pense que malheureusement, en effet, on doit en parler, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes dans la vie politique, et principalement des postes à responsabilité, qui seraient en fait un petit peu le reflet de la société civile, finalement. Comme le disait Cécile Duflot, il faut habituer les gens à avoir une femme chef. Ça me semble important. Il faut communiquer sur ces sujets.
Merci beaucoup, Benjamin, pour cette remarque. Et c'est vrai, Cécile Duflot, on a tous lu hier notamment, c'est un non-sujet pour toute l'Europe, c'est un sujet pour nous. Et en même temps, si on est très objectif en regardant en Suède, ça date de 2021, au Danemark 2019, en Estonie 2021, en Finlande 2019, en Lituanie 2020, etc. On pourrait finir la liste. Donc est-ce qu'on est vraiment si en retard que ça, en fait ?
Alors moi, je crois qu'on est en retard, notamment, vous avez parlé de cette histoire de féminisation des fonctions, et pour moi, c'est très important. Je pense que la langue dit beaucoup, et quand des femmes refusent de féminiser leurs fonctions, elles disent en creux que la fonction est dévaluée si elle est exercée par une femme, que c'est plus chic d'être avocat ou d'être premier ministre. Et ça, c'est très important parce que ça dit quelque chose qui reste, y compris chez ces femmes qui exercent ces responsabilités, c'est qu'elles sont pas complètement légitimes. Et ça, je pense que ça traverse partout. Pour vous raconter une autre anecdote de cette époque-là, dans un de mes premiers stages, je devais préparer des courriers et il y avait des directeurs de cabinet. Et il y avait des femmes et moi, j'avais écrit « directrice de cabinet ». Et ma maître de stage, elle a jeté les courriers sur ma table en me disant « qu'est-ce que t'as écrit là ?» Et je dis « j'ai écrit madame la directrice de cabinet ». Et elle m'a regardée, elle m'a dit « elle est directeur de cabinet, elle n'est pas directrice d'école ». Et cette phrase m'a beaucoup marquée, je m'en souviens encore, parce qu'effectivement, il y avait une espèce de classification et quand on occupait des postes d'hommes, il fallait utiliser le titre de l'homme pour se doter de ce pouvoir viril. Et donc je pense que la question, c'est vraiment celle de la dévirilisation du pouvoir, d'une certaine manière, de cette idée qu'on associe l'exercice des responsabilités du gouvernement, de la conduite des affaires publiques, au fait de disposer de testostérone.
Comme l'ambassadrice a longtemps été la femme de l'ambassadeur et rien d'autre. On est sur le même thème avec vous, Caroline. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi c'était pour témoigner. Je voulais dire qu'en fait, quand j'ai fait une reconversion il y a presque 11 ans maintenant, je me suis présentée en tant qu'artisane. Et une des premières questions qui venait, plutôt de me dire dans quel domaine, c'était « Ah bon, mais artisane, ça se dit ?» Et je dis en fait, si on ne le dit pas, personne ne le dira jamais. Et j'essayais de répondre un peu en me disant « quand il y a eu besoin d'institutrices, d'infirmières, là, ça pose pas de problème. Mais pourquoi artisane, ça pose un problème ? Alors, aujourd'hui, il y a effectivement de plus en plus de femmes dans l'artisanat, mais que ce soit dans d'autres métiers, voilà, c'est toujours difficile, la féminisation des métiers. Et donc là, cette première ministre, elle est première, en fait, tout court. Donc, la première ministre, ça me paraît logique, voilà.
Merci, Caroline, pour cette remarque. Camille Froide-Vométhéry, elle a raison, notre amie Caroline.
Oui, absolument, elle a raison. Et Cécile Duflot a aussi vraiment raison de pointer ce problème de l'hyper-virilisation du monde politique, ce qui renvoie à une façon dont on catégorise, en fait, les compétences et même les comportements et jusqu'aux valeurs et aux modes de pensée selon que ce sont des femmes ou des hommes et qu'on enferme les femmes dans un certain nombre, soi-disant, de compétences ou de valeurs spécifiquement féminine, elle serait plus empathique, plus rigoureuse, elle aurait un sens pratique plus développé, elle serait bon. J'ai mené une enquête auprès d'une soixantaine de femmes élues il y a quelques années cela qui m'a bien montré que la femme politique est un homme comme les autres. Ça fait vraiment aucun
oui.
problème.
Elle peut être tout aussi raide qu'un homme et inversement, un homme peut être rond aussi dans ses négociations. D'ailleurs, Elisabeth Borne n'a pas la réputation d'être quelqu'un de particulièrement rond en négociation.
Oui, et puis je remarque d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on souligne et qu'on dit beaucoup d'elle, c'est-à-dire qu'il faut absolument peut-être d'une certaine façon
dans l'espèce d'excès inverse, en fait, il faut absolument pas aller chercher de caractéristiques féminines parce que sinon on risque d'être accusé d'utiliser ça. En fait, ça veut dire qu'on sait plus sur quel pied danser.
Oui, mais en revanche, ce que j'ai pu observer, c'est que si les femmes politiques et les élus elles-mêmes souvent vraiment rechignent et même refusent de se présenter comme pratiquant la politique de façon différente, quand on rentre dans le détail du travail politique qu'elles font, on observe qu'il y a bel et bien des différences qui ont trait à la socialisation très différente entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire la difficulté à prendre la parole et à la conserver, c'est-à-dire la façon dont on a aussi du mal à gérer le temps du travail politique, quand notamment on doit aussi concilier ce temps avec une vie familiale. Et puis il y a en effet une posture qui est, alors est-ce que c'est davantage de la modestie ou un sentiment d'illégitimité, ce fameux sentiment d'imposture, je ne sais pas, mais le fait est que on n'apprend pas aux filles à s'affirmer, on ne leur apprend pas qu'elles peuvent exercer le pouvoir ou qu'elles peuvent imposer leur volonté. Et les filles sont éduquées pour demeurer dans une posture, disons, psychologique qui va les accompagner jusque dans le monde du travail, où elles peuvent être toujours dans une forme de réserve, d'autocensure. Hein, je l'ai observé, une des raisons importantes de la sous-féminisation de la vie politique, c'est évidemment l'entre-soi masculin et la façon dont dont il se perpétue. Mais il y a aussi un facteur féminin de femmes qui se retirent d'elles-mêmes, qui refusent finalement d'affronter cette jungle politique si violente.
Cécile Duflot, quand elle dit dans son petit discours introductif hier à Matignon, Elisabeth Borne, je voudrais dire aux petites filles que tout est possible, est-ce qu'elle a raison de le dire, ça, ou c'est moi qui me trompe en disant ce que je disais tout à l'heure en introduction, elles le savent, les petites filles, c'est les hommes politiques qui, eux, ne le savent pas.
Alors, les petites filles, elles le savent, les toutes petites filles, en plus exactement, elles se posent même pas la question. Et ensuite, on leur apprend à désapprendre qu'elles le savent. C'est ça qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, quand toutes les études qui ont été faites, qui sont des études intéressantes, montrent à quel moment ça se joue, à quel moment, en fait, on construit ce que vient de dire Camille Froidevaux sur l'adéquation à ce qu'on attend de soi. Et notamment chez les femmes politiques, moi, ce que je peux avoir vu et y compris avoir vécu, c'est que c'est très difficile de conserver sur soi, en fait, c'est ça le paradoxe, un regard féminin. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de pouvoir, vous avez le sentiment que vous allez faire peur, que vous allez être trop loin des codes. Et c'est ça aussi qui freine les femmes. Je crois quand même, il n'y a pas une spécificité de l'exercice du pouvoir féminin, mais il y a une expérience qui est différente. Et cette expérience, qui est de fait l'expérience d'une certaine discrimination, parce qu'elle est réelle, même à l'école, hein, les études l'ont montré, même si on parle de la natation, les filles en France, elles savent moins nager que les garçons en France en 2022, quelle que soit leur génération. Cette expérience-là, peut-être que ça fait regarder un certain nombre de situations différemment. Mais oui, elle a raison de le dire pour les petites filles, parce qu'on a quand même besoin de modèles. Et c'est difficile de se construire sans modèle. Et que je pense qu'on a besoin d'avoir des modèles de femmes chefs. Et des modèles de femmes chefs différents pour que ça corresponde à différents caractères. Et à ce moment-ci, il n'y en a pas beaucoup. Et ce matin, on m'a interrogée parce qu'il y a un... Je ne sais plus le secrétaire national du Parti communiste qui a dit « c'est Thatcher ». Et j'ai eu du mal à réagir, je me suis dit « c'est bizarre de dire ça ». Et en fait, j'ai réfléchi après et je me suis dit « mais non, ce n'est pas politique ce qu'il fait ». C'est qu'en fait, il y a tellement peu de référents femmes premières ministres qu'il prend celle qui reste dans le coin, avec toute l'absurdité de la comparaison historique, etc. Donc je pense que c'est ça, il faut qu'il y ait plus de modèles. C'est là où j'entends qu'elle a raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ces modèles-là pour que les petites filles puissent piocher dans plein de représentations.
Camille Froidevaux-Métairie,
oui, il y a un point. Oui, il y a un point sous-jacent à ce que vient de dire Cécile Duflot, c'est cette question cruciale de l'éducation des enfants, des filles et des garçons d'ailleurs. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup, notamment dans un travail que je suis en train de mener sur les petits garçons. Il y a une socialisation très évidente des garçons et des adolescents d'aujourd'hui qui sont dans une forme d'évidence par rapport à ce que peuvent les filles et les femmes. Et ce qu'il faut, c'est essayer de nourrir cette prédisposition et notamment en réfléchissant des politiques d'éducation féministe. Moi, c'est quelque chose qui me sidère d'observer comment, quinquennat après quinquennat, hein, qu'il soit d'ailleurs de gauche ou de droite, on a complètement abandonné cette question de l'éducation à l'égalité des filles et des garçons.
Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je citais ce comité qui s'appelle Sista, que je trouve très drôle. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo où on demande à des hommes chefs d'entreprise, mais comment vous faites pour concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle? Quelle est votre routine du matin avant d'aller travailler? Et je me rends bien compte que, y compris nous, enfin je veux dire, Elisabeth Borne, elle fera la une de Elle, à n'en pas douter, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante. Est-ce que c'est pas aussi notre rôle à nous, y compris nous, les journalistes? Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai hésité, moi, à faire cette émission, parce que j'ai eu un peu l'impression que, finalement, on tournait en rond. Est-ce que nous aussi, on n'a pas... Qu'est-ce qu'on joue, nous, comme rôle, nous, les journalistes, là-dessus?
Oh, vous avez un rôle de passeur qui est essentiel et de révélateur aussi de sujets qui sont peut-être pas flagrants. Veut dire, on a tous l'impression qu'à l'école les choses se passent de façon évidente. Voilà, je me permets de signaler le projet sur lequel je suis en train de travailler qui s'appelle Les Petits Mâles, où on rencontre des tas de garçons et c'est très très frappant d'observer. C'est un film documentaire et c'est très frappant d'observer comment finalement la société de demain, elle existe, elle est déjà là. La société féministe de demain, la société égalitaire de demain, mais qu'il faut savoir l'accompagner et pas, voilà, la tenir pour acquise.
Et balayons devant notre porte, hein, Cécile Duflo. Je repense encore une fois à ce type de questionnement qu'on peut avoir vis-à-vis des femmes. Est-ce que vous, par exemple, vous avez fini par refuser de répondre à ce genre de questions?
Alors moi, je pense que c'est très difficile parce que si vous refusez de répondre ou si vous renvoyez les gens au sexisme de leurs questions...
D'ailleurs, pardonnez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'on vous la posait encore, d'ailleurs, ou pas?
Est-ce qu'on me la pose encore?
Est-ce on vous la pose encore et on vous la posait encore à la fin de votre carrière politique? Enfin, il y avait encore des interviews qui disaient « Sinon, comment ça se passe avec la famille ?»
Ah, mais tout le temps. Okay. Et par ailleurs, c'est pas tant la question que le sous-jacent. Le sous-jacent de cette question-là, et c'est d'ailleurs l'énorme problème des femmes vis-à-vis de l'exercice des responsabilités, c'est la culpabilisation intrinsèque. C'est-à-dire que une femme de 35 ans avec 3 enfants, oula, c'est compliqué là, parce que ils doivent être malades, etc. Un mec de 35 ans avec 3 enfants, lui, le mec est posé, il est stable, il a une famille, c'est bien. Et tout ça, et donc vous charriez ça, toutes les femmes qui prennent des responsabilités, et d'ailleurs aussi maintenant des hommes, ont cette espèce de dilemme d'intérieur. Donc si on vous insiste sur ce dilemme-là, c'est de plus en plus difficile. Moi, ce que j'avais essayé de faire de temps en temps, c'était de prendre la tangente ou de faire de l'humour, parce que sinon, vous passez vite pour une revêche, en fait. Mais ce que je trouve très bien et ce que vous pouvez faire, vous avez à raison rappelé ce qu'a fait Sista, c'est qu'en fait, on s'en rend beaucoup plus compte quand on met les hommes dans cette situation-là. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Parce que du coup, on voit bien que tout ce que... Si on ne le fait pas avec un homme, c'est que c'est absurde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a un vrai combat qui est de mettre en lumière aussi des hommes qui exercent des métiers ou des fonctions traditionnellement féminines. Parce que ça change le regard, parce que souvent on se dit, ah bah, pour renverser ce que je disais tout à l'heure sur quand c'est masculin, c'est positif. C'est-à-dire quand une femme, quand une petite fille joue avec des jeux de garçons, c'est chic. Mais un petit garçon qui joue avec des jeux de filles, c'est moins bien. Mm-hmm. Et donc je pense qu'il faut faire, en tout cas moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait cet exercice inversé qui montre à quel point des hommes qui sont en situation d'exercer des métiers typiquement féminins ou des rôles sociaux qui sont historiquement qualifiés de féminins sont tout autant des hommes que n'importe quel homme. Je pense que c'est ça qui est... C'est cette déconstruction, c'est le mot qui convient, mais qui serait utile à tous, parce que c'est libérateur aussi, hein, parce que c'est agréable de pouponner quand on aime pouponner, que ce soit une femme ou un homme, en fait.
Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, je pense à la première ministre en Nouvelle-Zélande qui alors je ne sais pas si on dit qu'elle en a joué de sa maternité, si donc on fait un vrai contresens en disant qu'elle en a joué, ou que c'était tellement normal que de toute façon, bah, puisqu'elle venait d'accoucher, forcément elle allait y compris à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce qu'elle a fait avancer des choses, cette première ministre, Camille Froide-Vométhéry?
Ah oui, c'est crucial, vraiment, parce que ce qu'elle montre, et ce qu'elle montre à la fois, est-ce qu'elle invisibilise, c'est à quel point on renvoie toujours les femmes à leur corps, et notamment à leur corps maternel, à leur corps sexuel, quand on parle de leurs vêtements, de leur apparence, et à leur corps maternel, quand on les renvoie à ces fonctions qu'elles sont censées exercer de façon exclusive quand elles ont fait le choix d'être mère. Il y a quelque chose, en fait, vraiment, c'est ce qui résiste le plus dans nos sociétés, c'est-à-dire comment faire pour que les femmes ne soient plus définies comme des corps objectivés, des corps aliénés, des corps sexuels et maternels. Et quand une femme première ministre, voilà, choisit de continuer à travailler tout en menant sa vie de mère de façon tout à fait décomplexée, si je puis dire, elle montre simplement qu'il n'y a pas une dichotomie entre les fonctions corporelles des femmes et puis leurs fonctions professionnelles. Et elle montre en fait que les femmes sont des sujets incarnés, certes, mais qu'elles peuvent être donc en même temps, simultanément, première ministre et mère.
Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Hélène.
Merci. Écoutez, moi, je voulais d'abord rebondir sur ce que vous venez de dire, mais peut-être c'est vachement dérangeant pour les hommes, ou pour certains hommes qui détiennent le pouvoir, de considérer qu'une femme, elle peut en même temps être mère, là où ils ont essayé de la cataloguer, ou accompagnatrice de leur carrière, et que non, ben en même temps, cette femme, elle peut être mère et puis accompagner la carrière de leur compagnon, et puis en même temps avoir leur propre carrière. Mais ça me ramène à ce qui va arriver, à mon avis, à notre nouvelle première ministre, c'est qu'elle va avoir un barrage d'obstacles masculins absolument invraisemblables. Elle va être quasiment comme Edith Cresson. Alors peut-être qu'on a évolué, on est peut-être 40 ans plus tard, mais je ne pense pas que fondamentalement les mecs en politique ou même les mecs qui détiennent le pouvoir économique, etc., ils aient tellement évolué que ça. Et donc moi je suis assez pessimiste par rapport à ce qui peut arriver à Elisabeth Borne. Et je ne vous exprime même pas mes opinions politiques ici. Mmh, je suis vraiment seulement dans l'analyse de la situation, où je vois que dans le milieu professionnel et dans le milieu politique, les femmes, elles sont toujours en train de lutter pour simplement essayer d'exister, et que quand elles existent, le barrage qui se fait contre elles pour essayer de les dénigrer sur n'importe quoi, chercher la plus petite bête.
Merci beaucoup pour cette remarque, Hélène. Cécile Duflo, moi je suis une éternelle optimiste et je me dis que le barrage d'obstacles masculins aujourd'hui peut être levé par un caractère que, encore une fois, la politique n'a rien à voir là-dedans, par une Elisabeth Borne ou une autre. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que ce sera une Elisabeth Borne et puis une autre et puis une autre. Mais moi, je suis aussi très optimiste, mais parce que je crois que MeToo est une révolution, une vraie révolution. C'est-à-dire que quelque chose qui change tout. Et je le constate notamment sur les plus jeunes générations. Je vois le changement de plein de choses, les questionnements qui étaient des questionnements qui étaient très très loin des questionnements possibles pour la génération qui était la mienne et qui vivait pourtant dans un discours sur l'égalité. Donc je suis assez optimiste en fait, parce que la société va s'habituer, mais la société s'est questionnée sur elle-même. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette pression pour nommer une femme première ministre. C'est une forme de décision collective post-MeToo. Et donc, ça va continuer à changer. Puis peut-être qu'à un moment, il va y avoir, je sais pas, une remarque, un truc, quelque chose qui va arriver à Elisabeth Borne. Et elle aura la réaction qu'il faut, qui marque des choses. Vous savez, moi, il y a cette fameuse histoire de ma robe.
Bien sûr.
Où quand je l'ai vécue, j'étais agacée, j'ai serré les dents, en fait. Mais comme des centaines de fois avant. Mais va savoir pourquoi, à ce moment-là, ça a basculé. Et l'histoire m'a complètement dépassée. Et bien, sûrement, il va se passer d'autres choses comme ça qui vont faire que les choses vont changer. Mais je pense aussi qu'un des problèmes, c'est que pour beaucoup des femmes de la génération qui est avant la mienne, faire une carrière impliquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et notamment pour beaucoup, le sacrifice d'une vie de famille. Beaucoup de femmes n'avaient pas d'enfants, en tout cas, y compris des femmes qui ont été élues, pas du tout d'enfants, parce que c'était pas possible, en fait. Et là, le combat, c'est de vouloir tout. Et c'est effectivement de pouvoir être chef et allaiter. Alors, sans tomber dans le Michel Sardouisme des années 80, c'est quand même cette idée-là. Et se dire que personne n'est amputé ni agressé et que chacune peut trouver sa place aussi. Il n'y a pas un modèle.
Et c'est en ça que je parlais d'année zéro tout à l'heure, Cécile Duflo. Année zéro, parce qu'il y a eu MeToo, parce qu'il y a eu un MeToo politique aussi derrière. Est-ce que ça veut dire que, bien sûr, peut-être qu'il y aura des remarques, mais ces remarques-là, elles font plus rire personne quand même aujourd'hui. Elles sont immédiatement disqualifiantes. Est-ce qu'on peut au moins se dire que oui, chaque remarque de ce genre sera intégralement disqualifiante?
Alors moi, je pense qu'elles le sont beaucoup plus, et surtout des hommes osent s'opposer à ces remarques-là. Avant, il y avait une forme de solidarité masculine implicite, et y compris des hommes qui n'étaient pas d'accord avec ça, se sentaient pas le droit de réagir. Maintenant, les hommes se sentent le droit de réagir. Être du bon côté, y compris pour un homme, c'est ne pas rigoler d'un rire gras à une blague salace. Et ça, c'est un gros progrès.
Camille Froide-Vométhéry, c'est valable en politique comme ailleurs. Alors moi, j'appelle ça l'année zéro, mais on ne peut pas agir après MeToo comme on agissait avant MeToo. Et pour le coup, là, au moins, ça va enlever, j'imagine, un poids considérable sur les épaules d'une Elisabeth Borne, non?
Oui, c'est-à-dire qu'elle elle n'est pas seule. Alors MeToo, c'est un moment tournant important, mais la séquence, elle est un petit peu plus large. Et on est depuis, on va dire, une petite décennie dans une dynamique très intense de relance du projet féministe et qui a ceci de particulier, et ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Cécile Duflo, qui est crucial, que la séquence féministe que nous vivons, peut-être pour la première fois dans toute l'histoire du féminisme, c'est une séquence qui implique les hommes comme jamais. C'est-à-dire que jusque-là, ils ont pu faire à peu près comme si ça n'avait pas d'importance ou ça ne les concernait pas. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe socialement de puissant qui implique les hommes. Et on voit de plus en plus, et il faut le dire parce que c'est crucial, des hommes qui disent qu'ils sont féministes, qui le revendiquent. Et c'est très important parce qu'on parlait des modèles tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui me frappe beaucoup tant qu'il n'y aura pas davantage de personnalités masculines publiques qui prendront ce combat-là à bras-le-corps et qui accepteront aussi de reconnaître leur part de responsabilité. Voilà, on n'avancera pas assez vite.
J'ai cette phrase, pardon, sur l'appli de France Inter de Fabrice, dont je n'arrive pas à savoir, Cécile Duflo, si c'est quelque chose de terriblement optimiste ou de effroyablement machiste. Fabrice nous dit « Je crains qu'à l'issue de la gouvernance de Madame Borne, la femme ne soit plus l'avenir de l'homme, mais qu'elle soit finalement un homme comme un autre. Quelle désespérance !» Comment vous prenez cette remarque, Cécile Duflo?
Je pense qu'il y a à la fois un jeu de mots et du premier degré quand même un peu.
Aussi.
Mais moi, je crois pas à la femme, en fait. Et on sait très bien que quand on dit la femme, on est en général pas très féministe, parce qu'on est essentialisant comme si toutes les femmes étaient identiques sous prétexte qu'elles sont des femmes, ce qui est évidemment complètement faux. Et ensuite, ce qui sera probablement une très bonne nouvelle, c'est qu'un jour, on commentera uniquement la nomination d'une femme première ministre sur son profil, son orientation. Mais on n'en est juste pas encore là. Mais ça va venir. C'est la deuxième. Je ne sais pas au bout de la combienième, ça finit par devenir banal. La quatrième, la cinquième. Donc on a encore un peu de chemin devant nous. Mais moi, j'ai envie d'être positivement surprise. Alors c'est peut-être mon côté optimiste aussi. Mais je pense qu'elle est obligée d'être consciente quand même de la situation dans laquelle elle est et de ce dont elle est dépositaire. Parce que sa nomination, elle le doit à son travail, à ses caractéristiques. Elle le doit au choix du président de la République. Mais elle le doit à cette forme de contention féministe sociale qui s'est mise en œuvre. Et elle nous le doit à toutes et à tous, d'une certaine manière, quand même. Et j'espère qu'elle en fera quelque chose.
Voilà, elle nous le doit à toutes, comme vous dites. Tiens, je vous livre la remarque de Patrick qui dit, on évoque beaucoup Edith Cresson, mais enfin, pas les jupettes, notamment, qui ont été bien plus maltraitées encore. Gadget de Chirac et de Juppé, c'est vrai. Et c'est en ça qu'on voit Camille Frodo-Météric, qu'on a quand même fait d'énormes progrès. Enfin, personne n'oserait imaginer des macronettes dans un gouvernement aujourd'hui, mais personne.
Oui, sauf que ce qu'on peut très bien imaginer, c'est qu'il arrive aux femmes en politique encore aujourd'hui, ce qui est arrivé à ces jupettes, c'est-à-dire, voilà, elles font un petit tour et puis elles s'en vont. Et quand il s'agit de remplacer ou de changer un gouvernement, ce sont les femmes qui en font les frais les premières. C'est vraiment crucial d'observer quelle sera la place des femmes dans ce prochain gouvernement et si elles n'auront pas justement ce rôle accessoire.
Et même peut-être aller savoir à l'issue des élections législatives, ce sera l'occasion d'en reparler. Je vous remercie toutes les deux pour cette émission et à vous tous pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.